Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 46. Je suis Steve et je suis avec...
Mister René Bunny.
Je te laisse te présenter tout seul, ça va. C'est encore mieux.
Mais oui.
Voilà. Bonne semaine, Bunny.
Ouais, ça va, oui, bonne semaine. Oui, on peut le dire.
Complètement éclaté.
Ah, c'est oui. J'ai pas dormi depuis longtemps, on va dire. Voilà. Un petit...
Tour de cadran. T'en es même pas loin de deux tours de cadran, je dirais.
Ouais, voilà, c'est ça.
On va attaquer tout de suite avec le numéro de la semaine.
Oui, c'est vrai qu'on doit commencer par ça. Donc, je commence, tu commences ? Je commence.
Vas-y.
Peut-être. Oui. Donc, le numéro 46, ce sera Extreme X-Men numéro 46. Alors, pourquoi ce numéro ? Eh bien, parce que c'était tout simplement le dernier de la série Extreme X-Men. Alors, Extreme X-Men, c'était la série lancée par Chris Claremont et Salvador Larroca. Ouais. Voilà, Salvador Larroca qui a vraiment taillé ses crayons là-dessus et qui a surtout usé ses crayons, d'ailleurs, devrais-je dire, sur cette série.
Qui était au départ dessiné sans ancrage, en fait. Colorisé sans ancrage, pardon.
Ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, mais moi j'aimais bien. En tout cas, ça l'a rendu vraiment populaire. Bon, il était déjà connu avant, mais vraiment à partir de là, il a explosé en dessinant donc Rogue, Bishop, Gambit, etc.
Et rappelle-toi de Lifeguard. Le fameux personnage Lifeguard.
Oui, Lifeguard, et puis son frère ou sa sœur, je sais plus lequel des deux.
Le mec qui avait trop regardé Alerte à Malibu, quoi.
Oui, c'est ça, voilà. Ça. Alors bon, à la base, au fait, c'est une équipe de X-Men qui part à la recherche des fameux journaux de destinée, donc une intrigue chère à Claremont qui dure depuis 20 ans.
Très bon pitch de départ.
Pitch de départ intéressant, on pensait avoir des réponses, et puis finalement on a eu encore plus de questions qu'avant. C'est souvent le cas avec Chris Claremont et les X-Men. Mais bon, la série était quand même, enfin, a connu des hauts et des bas, mais bon, c'était sympathique, c'était pas du grand Claremont de la grande époque, mais c'était mieux que ce qu'il avait fait juste avant sur Uncanny X-Men.
Il était resté jusqu'au bout, la série ?
Il est resté, oui, les 46 numéros. D'accord. Pour revenir ensuite sur Uncanny X-Men, d'ailleurs, un petit temps, pendant House of M, en fait.
Très bien. Bon, pour moi, ce sera le plus ancien, le Tales of Suspense numéro 46. Pas mal de Tales of Suspense ces derniers temps, normal, puisque depuis qu'Iron Man est apparu, on a beaucoup de premières apparitions. Stan Lee au scénario, Don Heck au dessin, et c'était la première apparition du Crimson Dynamo.
What the heck ? Non, je plaisante.
Donc voilà, premier Crimson Dynamo, premier porteur de costume, puisqu'ensuite il y aura eu plusieurs personnes dessous. Donc voilà,
oui,
un personnage important.
C'était un nain, non ? Ou c'était l'autre ? La Dynamo Pourpre ? Ah non, c'est Titanium Man qui est nain, je crois.
Ah, peut-être.
Bon, bah, alors question aux auditeurs, voilà, parce que moi je pense que l'un des deux était nain dans son robot, enfin il me semble, en tout cas, ça me rappelle des vieux épisodes de Strange et je crois que c'était le cas. Bref.
Faut savoir que pendant qu'on enregistre, on ne vérifie pas sur internet, donc voilà, on est.
Oui. On est sérieux, nous, on n'a pas des fenêtres internet ouvertes partout.
Allez.
Les news, la main, voilà.
On passe aux news.
Mais oui. Donc, les news. Les news de la semaine, on va commencer avec Marvel. Il y aura beaucoup de Marvel cette semaine. Donc on va commencer par l'univers Ultimate. On pensait il y a quelque temps que peut-être l'univers Ultimate était en fin de course. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque après la mort de Spider-Man, il y aura Ultimate Fallout, donc pour 6 épisodes.
D'accord.
Et les numéros 1 à 3 sortiront en juillet. Avec Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman et Nick Spencer au scénario quand même.
D'accord, ouais.
L'artillerie lourde. Et au dessin, des gens comme Mark Bagley et Sarah Piccelli.
Ok, bon, ça va, c'est prometteur, disons.
Voilà, et ça s'appelle le début de la fin. Est-ce que ce sera vraiment le début de la fin pour l'univers Ultimate ? Est-ce que c'est un univers qui va fermer ses portes peu de temps après ? Ou est-ce qu'ils veulent le relancer, ou tenter de le relancer encore une fois ? Bon, les réponses à partir de juillet. Voilà.
En même temps, le début de la fin peut durer 3 ans.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
À savoir.
Combien de temps va durer la fin? Bon, la question reste posée. Autre chose, on change d'univers, on passe à l'univers classique avec Fear Itself. Alors, a été révélé sur le site Bleeding Cool l'identité des fameux Warsi, tu sais, c'est ces fameux super-héros qui vont être changés en guerriers par le dieu de la peur.
Super-héros et vilain.
Super-héros et vilains, tout à fait. Et alors, je vais pas révéler qui ils sont, ce serait un peu dommage pour ceux qui veulent pas être spoilés. Donc si vous voulez être spoilés, si vous voulez connaître leur identité, franchement, bon, allez-y, hein, moi je m'en fous un peu, donc allez sur Bleeding Cool. Mais bon, alors pour donner quelques indices, il y en a un déjà qui ressemble pas mal à Kratos. Ça me fait mal.
Ah oui, c'est impressionnant.
De God of War, voilà, ouais. C'est assez confondant, on va dire. Mais sinon, on a vu Juggernaut, donc ça, je peux le dire, quand même.
Oui, on savait déjà qu'il y avait Juggernaut, Hulk et Grey Gargoyle.
Voilà, donc
Merci les teasers de Marvel.
des gros bourrins. Hein. Voilà, ça ressemble plus à des personnages tout droit tirés de Soul Calibur que de personnages Marvel. Bon.
Malheureusement, c'est le problème, c'est que il y en a 7 sur 8 d'annoncés pour le moment. C'est tous des gros bourrins. Tous. Il n'y en a pas un qui fait dans la finesse, qui a vraiment des pouvoirs dont il se sert. C'est vraiment dommage, quoi. On n'a pris que des tapes dures.
Ouais, puis alors faut voir ce que ça va donner. Moi personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas.
Et puis
Et plus
bon,
ça va, plus moins ça m'intéresse, en fait.
faut être honnête, toi. On nous avait promis héros et vilains. Y a quasiment que des vilains, quoi.
En plus. Bah alors, faut voir parce que là, ils en révèlent 7. Je sais qu'il y en a 8.
Ouais, il en manque un.
Ah, qui est-il?
C'est un petit peu ridicule, quoi, de nous promettre héros et vilains alors que finalement il y a quasiment que des vilains.
Bref, bah le dernier sera peut-être Odin, tiens. Voilà.
Ouais.
Odin. Et puis au fait, le dieu de la peur, c'est le père d'Odin, l'autre père d'Odin, l'autre grand-père de Thor. Enfin bref. On ne sait pas, on verra. Pour changer, donc Vengeance, Vengeance, tu te rappelles, je te parlais des teasers Vengeance. On en sait plus sur ce de quoi il s'agit. Ce sera une mini-série en 6 réalisée par Joe Ekazé et Nick Dragotta au dessin. Alors c'est une mini-série quand même dont le pitch est assez intéressant, puisque c'est sur au fait des descendants de super-vilains, donc
Ouais.
des jeunes super-vilains, qui vont former une nouvelle équipe Teen Brigade. Alors la Teen Brigade, c'était une équipe de super-héros jadis formée par Rick Jones.
D'accord.
Voilà, ça te laisse complètement
Non, non,
pantois.
j'assimile les informations.
Oui,
Pour le moment.
et au fait, donc voilà, cette nouvelle team de jeunes super-vilains se demande ce que sont devenus un petit peu leurs aînés. Bon, bah dernièrement, t'as vu que Loki s'était sacrifié pour la bonne cause, etc.
Oui,
Donc,
mais il est de
oui.
retour.
Oui, mais il est de retour. Mais en tout cas, voilà. Donc le thème, c'est un petit peu celui des Young Avengers, mais inversé, quoi. D'ailleurs,
D'accord.
on ne sait pas ces 6 jeunes super-vilains de qui au fait ils sont enfin de qui ils sont issus, quoi, j'allais dire, de qui ils sont les descendants, en tout cas.
Une sorte aussi, un petit peu, peut-être d'Avengers Academy, avec des enfants de vilains ou de Secret Warriors.
Voilà. Tout à fait. Et les couvertures, signalons-le, sont de Gabriel Del Toro.
D'accord.
Des couvertures qui représentent des super-vilains classiques de l'univers Marvel. Et on nous indique également que c'est pas forcément des super-vilains en rapport avec ces 6 nouveaux jeunes super-vilains. Enfin bref, voilà.
Peut-être plus des gens sur lesquels ils vont s'attarder, essayer de savoir ce qu'ils sont devenus, etc.
Oui, peut-être.
D'accord.
On verra. Mais en tout cas,
À voir.
le pitch est sympathique. Et on retrouve, semble-t-il, la fameuse Stacy X.
D'accord, oui.
Ce qu'on avait vu dans les trailers, et il semblerait que ce soit elle, effectivement, et puisque c'était une création de Joe Casey, bah tout s'explique.
C'est clair.
Voilà. Nick Spencer, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, dis-moi.
Oui, 5 minutes.
5 minutes, eh bien, Nick Spencer, encore lui, aura le droit d'écrire un spin-off, Cloak and Dagger.
Oh putain.
Voilà, Cloak and Dagger à partir de Spider Island, avec Emma Rios au dessin, donc ce sera une mini-série en 3. Sur
D'accord,
Cloak and
ouais.
Dagger.
J'ai eu peur que ce soit un ongoing.
Non, non, j'ai cru que c'était un ongoing au début, et puis apparemment c'est simplement en 3. Ça fait quand même plaisir de retrouver ces personnages-là. Hein. Puis surtout avec le scénario de Nick Spencer, ça peut être plutôt pas mal.
C'est clair, mais enfin franchement, drôle, drôle de choix par rapport à ce qu'on lui propose, quoi. Je veux dire, ils se sont battus pour avoir l'exclusivité et ils lui offrent Cloak and Dagger.
Oui.
Ouais, je veux dire, on lui a offert les Secret Avengers et on le débarque assez rapidement pour y mettre Warren Ellis. Je pensais qu'on allait lui donner une série de gros calibre, puisque bon, il a quand même déjà bien fait ses preuves. Et non, on lui file Cloak and Dagger.
Bon, ben enfin,
Je
c'est
suis
temporaire.
assez étonné du choix de Marvel, quoi.
Enfin, on l'a aussi sur donc du Ultimate Spider-Man, comme je l'avais dit au début.
Enfin, du Ultimate Fallout.
Ouais, du Ultimate Fallout, oui, tout à fait. New Mutants. Alors, New Mutants, on le sait depuis une semaine maintenant. Au dessin, on va retrouver très bientôt David Lafuente, à partir du numéro 29 et jusqu'au 32. Donc après, peut-être que ce sera plus lui, mais en tout cas, il va signer, il va écrire, enfin, il va dessiner plutôt quelques numéros. Donc David Lafuente, qu'on a pu voir sur Ultimate Spider-Man, justement, on en parlait, arrive maintenant sur l'univers classique, sur New Mutants, et New Mutants, bah, ils sont un petit peu habitués au, comment dire, au dessinateur un peu hors norme, quoi. On se souvient de Bill Sienkiewicz au début des années 80, ouais, qui a vraiment marqué ces personnages-là. Donc ça pourrait être intéressant.
Ouais, pourquoi pas. Faut voir, faut voir.
À voir. Moi, je suis pas fan de David Lafuente, mais là, les dessins que j'ai vus correspondent bien, je pense, aux New Mutants.
C'est sûr, passé après des gens comme Bagley ou Immonen, voilà, fallait relever le niveau, quoi.
Et c'est pas pareil, quoi. Ouais, ça s'adapte moins, je trouve. Mais bon. On passe à Marc Millar. Marc Millar avec son label. D'ailleurs, non, c'est pas le label Icon, c'est le label carrément le Millar World, comme il l'appelle. Il va y avoir plusieurs choses. Super Crooks, avec l'Emile Francis Yu.
D'accord.
Qui sera une mini, alors je ne sais pas en combien, mais le pitch, c'est au fait qu'il y a trop de super-héros aux États-Unis, donc ils décident d'aller ailleurs.
Donc c'est par rapport au projet sûrement qu'ils voulaient faire avec un dessinateur dans chaque pays.
Ah peut-être, tiens, j'avais pas pensé à ça. Peut-être, peut-être. Mais pourtant là, on nous annonce que l'Emile Francis Yu, alors. Est-ce qu'il y aura d'autres dessinateurs dans le...
Peut-être que c'est la mini qui va servir à lancer tout ça.
Peut-être. Ah ouais, ouais. Bah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça, tu vois.
Tu vois, j'assimile les informations et je les recoupe ensuite.
Ah oui, oui.
C'est pour ça que je suis silencieux.
Oui, oui, non, mais je suis sidéré, quoi. C'est tout simplement fantastique.
Le détective, je te l'ai déjà dit.
Oh la vache. Oh là. Bon, alors, vite, enchaînons la suite.
Oui, oui, enchaîne rapide.
Kick-Ass va avoir le droit à un, comment dire, un spin-off, mais...
Ah non.
Non, non, un spin-off, mais en plus ongoing, puisque c'est Hit Girl qui va avoir le droit à son ongoing. Oui, oui, Hit Girl. Alors, par contre, ce sera pas John Romita Jr. au dessin, mais je vais retrouver son nom, Leandro Fernandez.
D'accord, je comprends pas trop la démarche, mais... Bon, bah, c'est un public pour...
Bah, Millar estime que Hit Girl est plus intéressante, finalement, que le personnage de Kick-Ass.
D'ailleurs, bah, un petit appel aux auditeurs, que vaut le volume 2? Je n'ai absolument pas touché à ça, donc n'hésitez pas à venir nous dire si vous le lisez, ce que vous pensez du volume 2. Est-ce mieux que le premier? Est-ce moins bien? Voilà. Dans les coms ou par mail, comme vous voulez.
Très bien.
Merci.
L'appel est lancé. Alors, c'est pas fini, hein. Il y a encore d'autres choses chez l'ami Millar. Il va faire un truc...
L'ami Molette. Je suis désolé.
Non, mais il est sur un projet avec Dave Gibbons, quand même.
D'accord.
Et on sait pas pour combien de numéros, ni qu'est-ce que ce sera exactement, mais visiblement, c'est sur un personnage sur lequel il ne peut pas encore communiquer. Alors, okay. Pourquoi on ne sait pas? Peut-être que c'est un personnage qui est tombé depuis peu dans le domaine public.
Reprise de Miracle Man, peut-être.
Ben voilà.
Marvel n'en fait pas grand-chose.
Ben oui, peut-être. Peut-être. Peut-être un truc dans le genre. On ne sait pas.
Voilà, Dave Gibbons, anglais, Mark Millar, anglais. Ce serait logique.
Ouais. Ouais. Et autre chose encore, on va terminer là-dessus avec Mark Millar. Un nouveau projet avec Frank Quitely, ce n'est pas une blague, ça fait beaucoup de projets. Ce sera une maxi-série chez Image en 12 parties. Ouais. Et alors là, on nous parle d'un truc colossal, avec plus de 100 personnages. Il s'est inspiré du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, de Crisis on Infinite Earth. Donc à mon avis, il nous raconte tout ça pour nous mettre l'eau à la bouche.
Bah, pour faire le buzz, oui, effectivement.
Pour faire le buzz, pour nous dire, pour nous faire comprendre que ça va être un truc gigantesque, colossal. Mais bon. J'attends de voir, franchement.
Ouais, à savoir que ça va pas être prêt de sortir puisque Frank Quitely n'a pas encore commencé à travailler dessus.
Et ouais. Et Frank Quitely a déjà son retard sur
sachant que Frank Quitely est quand même quelqu'un d'assez lent.
Il faut dire que Claire lui parle tout le temps. Voilà, sur
Skype. Non, mais voilà, il est assez lent dans son dessin, donc c'est pas quelque chose qui va démarrer tout de suite, quoi. Il faut plutôt attendre ça pour 2012, voire 2013.
On en avait entendu parler au LCF. Andy Deagle et Jock ont donc annoncé officiellement il y a une semaine à la Capo.
Ils en avaient parlé lors du panel. Ils en avaient parlé lors du panel au LCF. Sans donner plus d'infos, juste le nom et qu'ils travaillent sur un nouveau Creator Owned, c'est tout.
Ouais. Là au moins l'annonce est faite, on va dire, officiellement.
Ouais.
Donc Snapshot sera publié normalement dans Judge Dredd Magazine, donc le magazine anglais bien connu. Ce sera en 4, simplement.
D'accord.
4 parties. Mais bon, ça reste quand même sympa de voir Andy Deagle et Jock à nouveau réunis, et ça fera un joli TPB en plus, se mettre sous le sapin, par exemple.
Une idée de l'histoire?
Du tout. Aucune idée.
Ils ne sont pas révélés beaucoup plus, quoi.
Non. En tout cas, j'ai pas vu en tout cas le pitch.
Avare d'infos quand même.
Ouais. Ben, en même temps, bon, en 4 parties, à mon avis, on le saura très vite, quoi. Ça ne devrait pas tarder. Les Muppets, pour finir avec Marvel, arrivent chez Marvel. Bon, ça, on le savait depuis
Logique,
quelques temps.
Puisque les Muppets sont une licence Disney maintenant.
Voilà. Voilà. Pour faire le cri de Kermit. C'est Roger Langridge qui sera au scénario et Roger Langridge
qui travaillait déjà sur la version Muppets chez Boom Comics.
Et oui, et qu'on a vu aussi, je crois, récemment sur Thor, The Mighty Avenger, série qui s'est malheureusement arrêtée.
Oui, au 8e.
Et qui avait de bonnes critiques.
Qui était vraiment très sympa.
Bon, voilà. Bah, en tout cas, on le retrouve sur les Muppets très très vite. Je crois que c'est... Oui, c'est juillet. Voilà, à partir de juillet. Donc, bon.
Bouf, boum, ils perdent vraiment toutes leurs licences, quoi.
Ben oui. Ça
ils ont perdu Plouf, Mark Waid.
Ouais, ça s'appellera Plouf bientôt. Plouf Studio. Bon, allez, avant que ma vanne tombe totalement à l'eau, on va terminer quand même rapidement sur Dollar Day avec Infestation, qui aura une suite. Alors, Infestation, tu sais, c'est ce crossover gigantesque. Ouais.
Entre Ghostbusters, Star Trek, G.I. Joe et Transformers.
Exactement. Eh bien, il aura une suite, Infestation Outbreak. Et alors là, j'ai vu des teasers, c'est uniquement avec des personnages que je ne connais pas du tout, donc sans doute des personnages qui sont apparus.
Des personnages d'Infestation, sûrement. Les
ouais,
chasseurs
durant,
de zombies.
Durant la saga Infestation.
En fait, ils existaient déjà avant. Mais,
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Ils avaient déjà eu des mini-séries avant, sûrement.
Très bien, ok. Bah alors, en tout cas, on retrouve donc ces héros-là. Pour Infestation Outbreak, qui est la suite, hein, direct, mais au scénario, donc c'est Chris Ryall et Tom Waltz et David Messina au dessin. Voilà, donc une mini, je ne sais pas en combien, mais de toute façon, ça fera suite à la saga, donc Infestation.
Ça veut dire qu'elle a plutôt bien marché.
Ben oui, écoute, oui, ben,
si tant mieux. Une suite.
Tant mieux. Bon, alors par contre, c'est assez bizarre ce principe de faire un truc rassemblant tant d'univers qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, mais en même temps, si ça peut déboucher sur...
C'est une espèce d'infection de zombies, en fait, donc
oui,
c'est pour
ça
que ça touche un peu tout, sans pour autant des zombies qui passent à travers, qui viennent d'une dimension de zombies, un peu à la Marvel Zombies.
Ouais.
Donc c'est pour ça que ça peut se permettre de toucher un peu tous les univers et les rassembler, alors qu'ils ne sont pas forcément dans les mêmes univers.
Tout à fait.
Tu vois, c'est le multivers, quoi.
Le concept est drôle, et puis quand on a des licences multiples et variées, bah pourquoi pas en profiter comme ça, quoi, effectivement. Ouais,
bah, franchement, qui aurait imaginé un crossover Star Trek Transformers?
Oui, ou Star Trek Ghostbusters.
Oui, complètement.
Teaser chez Topco pour terminer, Mysterious Ways, pour juillet. Mysterious Ways, c'est un truc, on voit une espèce de teaser avec uniquement des têtes de psychopathes tueurs en série célèbres.
Tant que c'est pas l'adaptation en comics de la série avec Adrien Pasdar, Mysterious Ways, les chemins de l'étrange.
Non, je ne pense pas du tout. Alors par contre, j'avoue que j'ai cherché ta tête dans les 12 psychopathes présents et je t'ai pas trouvé, ça c'est bizarre.
T'es un enfoiré quand même.
Et avec ça, on va pouvoir commencer la première double review. Enfin la double
non,
review.
Non, parce que je boude. Non.
Mais, voilà. Oui, mais il va falloir y aller maintenant.
Bon, ok. Allez, on entame avec Flash numéro 10. Toujours Road to Flashpoint, écrit par Jeff Jones, dessiné et ancré par Francis Manapoul.
Salut ma poule, je la fais à chaque fois, mais on ne s'en lasse pas.
non, pas vraiment, on ne s'en lasse pas, non. Ça me fait toujours marrer. Donc, deuxième partie de l'arc, où on avait ce fameux Hot Pursuit qui arrivait. Alors déjà, à signaler un retard, il aurait dû sortir le mois dernier.
Ouais, pour Flash, c'est toujours un peu ballot.
C'est dommage parce que... pour un arc qui est censé annoncer Flashpoint qui commence en mai, je sais pas comment ils vont faire.
Et ben Flash va devoir se dépêcher très très vite.
Soit ils vont nous sortir plusieurs numéros au mois d'avril, soit on aura la fin de l'arc après le début de Flashpoint et du coup ça tombe à l'eau.
Ouais, ben je sais pas. Je suis autant interrogatif que toi. Oui. Alors Haute Poursuite, de toute façon Haute Poursuite
qui a enlevé son casque à la fin et on n'avait pas révélé cette identité, mais c'est Barry Allen. Lui-même.
C'est Barry Allen, ouais. C'est Barry Allen et quel nom pourri quand même.
Oui, c'est vrai. Mais voilà, il lui explique un petit peu, donc on a une conversation entre Barry et Barry. Il lui explique d'où il vient, parce que Flash ne comprend pas forcément pourquoi il y a un autre lui. Et donc là, Jeff Jones nous fait revenir le multivers, dont on n'entendait plus parler vraiment depuis quelques temps.
Logique, hein, jusque-là.
Et il explique, enfin, Voilà, on sent qu'on est près de la crise, que quelque chose va se passer, et que si ce quelque chose se passe, ça risquerait de détruire non seulement la Terre, mais tout le multivers. Ce qui peut arriver n'importe quoi sur les autres Terres, on s'en fout, mais si la Terre 1 explose, enfin en tout cas un problème, ça va affecter tout le multivers, puisqu'elle est le centre du multivers.
Voilà, ça fait bien les choses pour les scénaristes, comme ça ils peuvent s'amuser avec... les autres c'est sacrifiable, mais notre Terre c'est quand même le plus important.
Il y a Bart aussi, Bart Allen, Kid Flash, qui les rejoint, et là s'engage donc la discussion. Bart refuse de croire que c'est un autre Barry Allen et se demande si c'est pas un ennemi
qui se déguise, oui.
Voilà, qui essaie de le manipuler, et ne comprend pas que Barry soit aussi crédule, notre Barry, enfin notre Flash quoi, soit aussi crédule. Finalement, il s'avère que Flash n'est pas si crédule que ça, il a quand même pris des précautions. Et voilà, il y a tout un dialogue qui s'engage entre Bart et Barry, et ça finit relativement mal entre les deux.
Ouais, et d'ailleurs je le trouve assez... Enfin, c'est Barry Allen, Haute Poursuite, mais il est vraiment... on a envie de lui donner des claques, quoi.
Ouais, alors le Haute Poursuite est prêt à tout sacrifier pour sa mission, quoi, pour empêcher que Flashpoint n'arrive. Voilà, il y a une petite phrase qu'il dit à Flash, justement, Flash lui dit, t'as cassé mes vitres, quand t'es arrivé, tu fais de la destruction. Et Haute Poursuite lui répond, c'est pas grand-chose, quoi, je ferai tout pour ma mission, c'est sacrifiable. Et ça, c'est quelque chose que Flash ne peut pas concevoir, le Flash de la Terre 1.
Mais moi, il m'énerve assez, le personnage de Haute Poursuite, parce que, au fait, on se dit, mais il est bête, quoi, il a besoin de Flash. Moi, je pensais qu'il allait demander de l'aide l'aide à Flash, et puis au fait, il essaye de s'en passer, quoi.
Mais donc, il y a aussi quand même un truc que j'ai pas compris, j'ai pas compris pourquoi Flash n'a pas réagi tout de suite. Il lui dit clairement que sa moto consomme du fuel, et donc voyant que sa moto fait de la destruction, etc., qu'elle consomme des choses et qu'il y a des sacrifices à faire, je sais pas, il devrait réagir tout de suite que c'est lui qui a absorbé la vie du gamin.
Ouais, et exactement.
Non, il réagit. Il commence à y penser quand on apprend qu'il y a un deuxième meurtre à la fin.
Il se met à chercher des traces. C'est pas le plus rapide à cogiter, dis donc.
Là, j'ai pas compris, quoi. Enfin, je veux dire, le mec est un flic. Enfin, il a l'habitude, quoi. Il a l'habitude de faire des déductions comme ça. Donc là, ça ne traverse pas l'esprit.
Ou bien alors, Jeff Jones nous mène en bateau. C'est pas lui le coupable. Flash, lui, l'a compris. Mais nous, on le sait pas.
Ben, pourquoi il rechercherait des traces de pneus à ce moment-là?
Pour se conforter dans sa théorie que justement il veut vérifier si c'est lui ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Moi, je sais pas. Là, ça m'a paru un petit peu out of character, tu vois. Qui pense pas à ça tout de suite, ça m'a un petit peu gêné.
Bon, on verra si c'est bien lui qui est derrière tout ça. Enfin, si c'est bien Haute Poursuite qui est derrière tout ça. Il y a aussi le retour, on va peut-être pas en parler, mais quand même.
Un personnage cher à
Barry Allen, plutôt d'ailleurs. Mais un numéro quand même qui se lit assez vite.
Oui, vraiment.
Peu de choses finalement.
Peu de choses, mais quand même. Toujours des petites. On sent que ça va péter, quoi.
Ouais. Mais alors que comme tu dis, est-ce que ça méritait qu'on. C'est un arc en combien
Je sais pas du tout.
Ah, d'accord.
Je dirais en 4, puisque ça a commencé le mois dernier, au dernier épisode, le 9, et normalement la série étant censée s'arrêter au 12 au début de Flashpoint.
D'accord. Bon, alors à moins qu'il se passe des choses extraordinaires dans le numéro 12, je pense qu'ils auraient pu le faire en 3, quoi, quand même. Vu le retard en plus qu'ils ont là, un mois, c'est... tant pis. Enfin voilà.
Mais par contre, il y a quand même l'attitude de Barry Allen de Terre 1, notamment l'attitude qu'il a envers Bart, et on sent que il s'éloigne de tout le monde, quoi. Il est vraiment... continue, disons. Il se conforte dans cette position de je suis tout seul.
Ouais, depuis Flash Rebirth, quoi. Depuis son retour. C'est d'ailleurs peut-être le truc qui m'a un peu énervé. Je me dis
Il devient chiant comme personnage.
Oui, voilà.
À côté d'un Wally West qu'on ne voit plus et qui lui avait la joie de vivre, malgré tout ce qui lui est arrivé, là on voit un Barry complètement morose. Et c'est pas du tout le Barry Allen qu'on a l'habitude de voir forcément, quoi. C'est assez désagréable. Mais est-ce volontaire de la part de Jeff Jones? Est-ce qu'on va avoir des réponses à tout ça? Je sais pas, on verra bien.
Bon, en tout cas, ça reste quand même bien sympa.
C'est bien, ouais. En plus, il y a quand même le petit symbole. C'est discret, hein. Mais si tu regardes, tout le ciel est tout le temps rouge.
Oui, c'est le symbole comme quoi
Il y a une crise.
Ouais, il y a une crise, quoi. C'est pas le moment de sortir de chez soi. Restons bien au chaud. Et voilà. Et oui, c'est toujours l'annonciateur de la crise, quoi, le ciel rouge.
Ah, vraiment, voilà, ça m'a fait rire, quoi. Bah, c'est sympa. Maintenant, est-ce une lecture obligatoire pour Flashpoint? Je pense pas.
Ouais, je pense que malheureusement on peut se passer de cet épisode, mais bon, encore une fois, ce serait dommage de, ouais, enfin, de louper un truc qui est quand même pas mauvais, hein. Donc
Le comble, c'est quand même que ça reste relativement lent.
ouais,
Et pour un épisode de Flash, voilà.
C'est sûr que ça s'apprécierait plus en TPB.
Oui, je pense. Surtout en plus en retard. Donc bah finalement, ça ne va être qu'un check-it pour moi.
Ouais. Mais pareil, ouais, peut-être check-it, parce que retard, surtout, qui fait pencher la balance, quoi.
Le retard, le fait que ça avance pas énormément, que ça risque de foutre en l'air le début de Flashpoint.
Bah
Faites comme vous
voilà,
voulez, quoi.
il a fait un mauvais démarrage, Flash, mais bon.
Bah peut-être que Geoff Johns commence à faire ses premières erreurs, à trop vouloir en faire.
Ouais. À trop vouloir aller vite, finalement.
Ou est-ce la faute de Manapool? Peut-être est-ce la faute de Manapool qui ne tient pas le rythme. Hein. On ne sait pas. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a le retard.
Eh bien, en tout cas, bon. Quelle conclusion?
Eh bien, on va passer à la première review solo, et c'est toi qui commences.
Oui, oui, je commence avec donc du Marvel, Incredible Hulk 626, avec une superbe couverture, d'ailleurs.
Magnifique. J'adore.
Très, très James Bond, quoi.
Ah oui, complètement. Une couverture de Jock, tu me disais?
Ouais, et qui rappelle aussi une ancienne période de Hulk, quoi.
Incredible Hulk. Premier truc auquel j'ai pensé, quoi, avec le titre mis à la verticale, comme ça...
Alors, est-ce que l'épisode justement suit cette logique? Le pitch. Eh ben, au fait, récemment, dans Incredible Hulk.
T'as pas donné les crédits, Benny.
Oui, excuse-moi, oui, c'est vrai. Alors, les crédits. Donc, Greg Pak au scénario et Tom Grummet au dessin.
Oh, bah, en plus.
Oui, donc, très sympathique. Tom Grummet qui fait vraiment penser à John Byrne, je trouve.
Ah ouais.
Sur certaines pages. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je trouve que dans Tom Grummet, il y a des visages vraiment à la John Byrne. Des expressions faciales à la John Byrne, vraiment des dessins parfois qui font vraiment penser à du John Byrne. Et puis John Byrne étant déjà passé en plus sur Hulk, pas énormément, mais il a quand même fait un petit passage, quoi. Voilà, bon, ça me faisait penser à ça, quoi, pas mal. Le pitch donc de l'histoire, bah depuis quelques numéros, au fait, Bruce Banner essaye de reconquérir Betty, puisque Betty est vivante. Seulement Betty est Rachel Hulk. Et Rachel Hulk.
Elle est pas contente.
Ouais, elle est pas tellement intéressée par la proposition de Bruce Banner. Elle lui fait savoir en le balançant dans un mur, quoi.
On règle les problèmes Hulk style, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc on en est là, et il va avoir du pain sur la planche, pardon, pour reconquérir le cœur de Betty. Et alors là, c'est vraiment un épisode qui rappelle la période Peter David, parce que c'est super fun à lire. En gros, c'est simple, c'est Bruce Banner qui essaye de retrouver Betty dans un premier temps. Et Betty se trouve peut-être avec un ancien ennemi de Hulk, en Italie, il la retrouve en Italie, dans une soirée une soirée huppée, quoi. Mmh. Et il la retrouve à son grand dam en train de danser avec l'un de ses pires ennemis, l'un des ennemis classiques de Hulk.
D'accord.
Et bon, évidemment, Bruce Banner essaye de la raisonner, les choses se passent mal, et il se retrouve pris dans un espèce de piège, voilà. Évidemment, Hulk est vu comme le responsable, quoi, au fait.
Le méchant de l'histoire, quoi. C'est lui qui a foutu la merde.
Voilà. Alors, il est surveillé par Amadeus Cho, qui l'aide à mener son enquête et à retrouver Betty, mais de toute façon... les choses se déroulent plutôt mal pour lui. Et voilà, bon bah c'est vraiment sympa. C'est drôle. Mmh. C'est très drôle. Voilà, ça rappelle vraiment la bonne période d'Incredible Hulk. Où voilà, il y avait des histoires avec du fun, de l'action, du suspense. Et puis surtout, le gros problème qu'il y a eu récemment, c'est que je me disais, bon, bah, c'est bien beau de nous ramener Betty, mais Rachel Hulk, c'est pas très intéressant. Et bah là, Greg Pak arrive à nous rendre ce personnage super intéressant, quoi, et super fun à lire.
D'accord.
Donc voilà, vraiment très très bonne surprise. Pas d'Oscar d'ailleurs, hein, puisque pendant un temps, Incredible Hulk était squatté par son fils.
Bah oui, Scar, il est dans une mini-série Savage Land contre Kaisar, je crois.
Voilà, actuellement. Donc, bah, c'est d'autant mieux que Incredible Hulk soit rendu à Hulk, quoi, en fait, j'allais dire, à son propriétaire légitime. Donc, pour moi, c'est un total bail et j'ai hâte de lire la suite, quoi.
D'accord, bon, mais ça fait plaisir.
C'est vraiment du Hulk de la grande époque, quoi.
Mieux que le Hulk de Jeff Parker.
Mieux que le Hulk de Jeff Parker, ouais. Ouais. Résolument.
Très bien. Bah, un bail, c'est cool. On passe à la suite, on fait un tour chez Image avec la sortie d'Infinite Vacation numéro 2 sur 5. Nick Spencer et Christian Ward. Christian Ward qui est au dessin mais aussi au scénario. Alors, on suit toujours les aventures de Mark dans ce monde dans lequel on peut voyager à travers les réalités alternatives. On retourne dans le multivers façon Flashpoint.
Oui, enfin d'une manière un petit peu différente quand même, hein, pour y aller.
Et donc, à la fin du premier épisode, Mark était attaqué par un autre lui, puisqu'il se rendait compte
Ah bah comme
que...
dans Flashpoint, oui, effectivement.
Voilà, il se rendait compte en fait que des versions de lui, enfin des versions alternatives de lui se faisaient tuer, et pas qu'une, hein, plein se faisaient tuer, et à chaque fois on essayait de faire passer ça pour une mort accidentelle, mais ça paraissait trop gros, là, quand sinon c'était énorme.
Ça me fait penser hein, d'un seul coup à The One avec Jet Li quand même, hein.
Bah, un petit peu, ouais, c'est un petit peu le principe, ouais. Sauf que
Avec
pour le moment, il gagne pas en force à chaque fois.
ouais, avec le fameux Let the body hit the floor.
Voilà, la Drowning Pool,
Oui,
magnifique, magnifique
ouais.
morceau de Drowning Pool qui me fait toujours marrer. bref, en fait, il se fait attaquer par un autre lui, mais qui est simplement venu l'enlever. Et il se retrouve kidnappé en fait par trois autres versions de lui, hein, logique. Il leur a donné des surnoms. Il y a Redneck Mark, qui est donc un gros bouseux.
Ouais.
Voilà. On a Hacker Mark, qui est un fou de l'informatique,
Ah bah oui, on s'en serait douté, ouais.
et Nudiste Mark,
Qui est nudiste?
qui est nudiste, qui se balade le sgeg à l'air tout le temps.
Très bien.
Et en fait, ils sont venus le sauver et mettre un autre lui à la place, puisqu'il allait se faire arrêter par les flics. À la place, ils ont mis un Mark pédophile.
Oui, voilà, quelqu'un de sacrifiable,
Voilà.
quoi.
Oui, c'est clair. Et donc, il l'envoie à la place, enfin, il l'envoie dans un autre monde, un monde où le Mark de ce monde-là est ce qu'on appelle un Deadender, ceux qui ne, qui refusent cette technologie de pouvoir voyager dans d'autres univers.
D'accord.
Voilà, c'est bien compliqué. Il apprend donc par ces trois marques-là que quelqu'un est à sa recherche et qu'apparemment il a 100% de chance d'être lui. On recherche un Mark en particulier et donc c'est lui, quoi. Le match est à 100%.
Ouais, c'est The One, quoi. En fait, c'est vraiment
Voilà,
ça,
c'est ça.
quoi.
Alors, pour quelle raison? Ça, par contre, on ne sait pas trop encore. On voit à la fin qui le recherche. Bon, je vais pas spoiler. Et on voit
Mais
aussi
c'est Marc qui le recherche.
quel acolyte il a, cette personne qu'il recherche.
C'est
Et
Marc aussi.
un acolyte très particulier. Et justement, le gars qui avait été envoyé sur les ordres de ce grand chef, c'était un Marc flic. Ça qui est très drôle, quoi. Parce que qui mieux pour traquer quelqu'un que soi-même?
Oui, bien sûr.
Voilà. La logique poussée à l'extrême, quoi. Dans le monde où il est un Deadender, il retrouve cette fameuse fille qu'il avait rencontrée dans le premier épisode, qui elle était pas enfin qui détestait, en fait, qui était une Deadender, qui détestait le fait de pouvoir voyager dans le monde, dans d'autres mondes en vacances, quoi.
Ouais.
Et donc il apprend à faire connaissance un petit peu, il apprend son histoire. L'épisode est super sympa, ça se lit vraiment bien, ça continue excellemment bien. La série est vraiment bien partie, j'ai hâte de voir où ça va aller. Les dessins sont toujours assez particuliers. Et on a encore de nouveau un passage avec les photos, avec des bulles incrustées façon comics, mais des photos de personnes. Donc voilà, il y a vraiment toute une ambiance particulière, c'est vraiment fun, c'est vraiment sympa, il y a du mystère, on se demande où ça va, et ça qui est intéressant. Il y a un petit point noir, c'est le retard.
Ah oui, toujours ce
Le
fameux retard
retard.
là qui plombe souvent les lectures.
Ouais, et là, et donc, il y a tellement de retard que sur la back cover de l'épisode, il y a la sollicitation pour le numéro 3, qui va
Dieu.
sortir le 20... Pour le... Enfin, tu vois, là, ils te disent qu'il va y avoir un petit peu dans le numéro 3, comme il y a dans Morning Glory, tu sais, à chaque fin
Ouais,
d'épisode.
ouais, ouais.
C'est le truc façon Shadowline, c'est comme ça. Et bah, on te donne la sollicitation pour le 23 mars.
Ah, c'est ballot.
Voilà, sachant que le numéro 2 est sorti le 14 avril.
Ouais, bah il y a
Non,
deux
le
jours.
13, pardon, le 13
Il y
avril,
a
voilà,
trois,
c'est
oui, il y a
sorti
trois jours, oui,
mercredi,
puisque
donc
nous sommes samedi.
voilà, c'était le 13. Le 13 avril, le 3 qui sort le 23 mars, voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est le petit faux pas, quoi. c'est le retard.
Oui.
Bon, bah, mais en tout cas, ça reste vraiment sympa. Et en même temps, c'est une mini-série, ça n'impacte rien d'autre. Donc, à la rigueur, le retard est plus facilement pardonnable quand c'est comme ça que sur une série comme Flash.
D'accord.
Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bref, vous l'aurez compris, c'est un bail. C'est vraiment très bon. Jetez-vous dessus si vous n'avez pas encore essayé. Puis ça vous engage pas pour grand-chose. À la rigueur, 5 numéros si vous avez aimé la série.
Ou bien alors, si vous avez la patience, moi je pense que je vais patienter jusqu'au TPB.
Jusqu'au TPB, ouais.
Ouais.
Pour, du coup, si ça continue à avoir des retards comme ça, t'es pas prêt de le lire.
Oui, mais par contre, je pourrais dévorer ça d'une traite et justement ne pas avoir à subir l'attente.
Oui. Ah, des fois, l'attente fait partie du jeu aussi.
Bref, envoyez-nous vos comment dire, vos pensées philosophiques, comme Steve vient de le faire. Et on va continuer avec... Ouais, enfin, si tu as fini. Hein.
Ah ben, moi j'ai fini, c'est
d'accord. Bien. Donc, seconde review solo de ma part, Batman et Robin, numéro 22. Donc, avec Peter J. Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin.
L'équipe de Green Lantern Corps.
Oui, en plus, c'est vrai. J'avais oublié que c'était ouais, aussi...
L'ancienne équipe de Green Lantern Corps.
Ouais. Et bientôt, la future ancienne équipe de Batman et Robin, puisque je crois qu'il reste pas. Si je dis pas de bêtises, hein. Bon, à force, je ne sais plus, il y a tellement de séries Batman. En tout cas, c'est la dernière partie d'un arc en 3 où Batman et Robin affrontent The White Knight, donc par opposition au Dark Knight. Ils sont allés chercher loin. Alors que vaut ce nouveau super vilain ? Eh ben, il est plutôt pas mal. Alors là, ça commence avec ce nouveau super vilain qui a, comment dire, déclenché dans Gotham City une chute d'ange. Alors, je t'explique le principe.
Ouais, parce que là, j'ai du mal à...
Tu rassembles tes ennemis. Tu les drogues, tu leur colles des espèces d'ailes d'ange dans le dos, et tu les fais chuter des buildings de Gotham.
C'est sympa comme jeu.
Voilà. Donc, il organise une grosse chute de gens qu'il aime pas. Et bien sûr, Batman et Robin essayent de limiter la casse, si je puis dire, en rattrapant ceux qu'ils peuvent rattraper. Et Batman, comme il est très intelligent, rappelons que c'est Dick Grayson, hein, Batman, oui, dans Batman et Robin, enquête et se rend compte que toutes ces personnes ont des liens familiaux ou relationnels avec des détenus d'Arkham. Enfin non, d'ailleurs pas relationnels, des liens familiaux ou des liens du sang, voilà, avec des détenus d'Arkham. Donc ensuite, Batman se rend à Arkham, enfin Batman et Robin se rendent à Arkham, et Arkham, justement, est attaqué par ce fameux White Knight qui envoie des espèces de lances lumineuses qui aveuglent le commissaire Gordon et tous les flics qui étaient déjà sur les lieux. Batman arrive à la rescousse, rentre dans Arkham. Donc, décidément, en ce moment, j'ai l'impression qu'Arkham est vachement attaqué par les ennemis de Batman. Je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que tous les mois, maintenant, il y a un problème chez Arkham. Bref.
Ah, Arkham.
Oui. Pas au magasin, oui, oui, non, bien sûr. Pas chez Philippe et Philippe.
Un petit coucou à Philippe et Philippe.
D'ailleurs. Voilà, du coup. Mais donc là, en fait, le fameux White Knight inonde les cellules de flotte.
Ouais.
Les cellules de tous les cinglés emprisonnés à Arkham.
Oui, ils essaient de les noyer, quoi.
De les noyer, ouais, tout à fait. Et alors, c'est assez drôle parce que pendant que ça se remplit de flotte, par exemple, t'as le Joker qui est en train de mimer comme s'il prenait sa douche, quoi. Voilà, il déconne, quoi.
C'est le Joker, quoi.
Oui, c'est le Joker. Et donc, pourquoi le White Knight en veut à tout prix aux détenus d'Arkham et pourquoi il s'en est pris à leur famille, à leurs proches? Eh bien, on a la réponse dans cet épisode, puisqu'on a le droit aux origines du White Knight. C'est plutôt bien foutu, c'est pas mal. J'ai bien aimé ses origines. En plus, c'est un bon nouvel ennemi, bien torturé comme on les aime. C'est du Batman à Gotham, avec vraiment l'ambiance gothique, avec le côté enquête, etc. Donc c'est vraiment du Batman que j'aime à lire.
Ouais, le Batman détective, quoi.
Voilà, le Batman détective. Alors, bien sûr, avec une touche de Damian, puisque c'est Batman et Robin, mais quand même, on commence à l'apprécier, mine de rien, le sale gosse. C'est plutôt bien joué, parce que c'était vraiment pas gagné en ce qui me concerne au début.
Moi, j'y suis toujours pas arrivé. Hein,
mais... Non, mais enfin voilà, peut-être que quand tu liras ces épisodes-là, tu t'habitueras.
Ouais.
Donc voilà, bon, pour moi, c'est un bail, très bon épisode, très bon arc. J'allais dire, pourquoi chercher à faire compliqué comme Grant Morrison quand il nous fait du Batman Inc. En essayant de changer un petit peu le principe de Batman. Pour moi, Batman, c'est Batman à Gotham, c'est ça, et puis bah ça marche, quoi. Tant mieux. Voilà, c'est le Batman que je veux lire. Donc voilà, donc un bon bail.
C'est un Batman, quoi.
Oh là là.
Voilà. Ouais, voilà.
Bah Hitman. Allez, voilà, c'est ce qu'on dit aux auditeurs.
J'ai de la vanne.
Ah bah là, là tu t'es déchaîné, là.
Ah ouais, non, mais je suis en forme.
Ouh, laisse te tourner, là.
C'est moi qui régale. Hein.
Ouais. Eh ben, tu vas...
Oui, bah, je vais terminer. Dernier review de cette semaine. Le Superboy numéro 6, scénario de Jeff Lemire. Et au dessin, on accueille cette fois-ci un remplacement, Marco Rudi, qui fait un petit passage sur l'épisode. Il reste cet épisode-là ainsi que le prochain. Et puis ensuite, nous retrouverons le dessinateur classique, dont je n'ai plus le nom. Pierre Gallo, voilà.
Oui, le fameux Pierre Gallo.
Bon, ça commence. Alors. Déjà, c'est tie-in à Reign of Doomsday. On avait eu donc le début dans le One Shot Steel, ensuite dans Outsiders. On n'avait pas parlé de Justice of America, Justice League of America numéro 55, ainsi que le Superman Batman Annual numéro 5, qui étaient tous aussi des parties de Reign of Doomsday, ou dans lesquelles Doomsday s'attaquait à Supergirl et à Cyborg Superman, qui était caché dans le corps de Boudica.
Ah ouais, lanterne, d'accord.
À la fin de l'arc sur les Alpha Lantern dans Green Lantern Corps, depuis que Tony Bedard a repris le scénario. Mm-hmm. Donc, comme quoi tout se tient. Deux épisodes écrits par James Robinson, donc le Justice League et le Superman Batman Annual, qui sont relativement sympas.
D'accord.
J'ai préféré le Superman Batman Annual que le Justice League, mais bon. Là, donc cette fois-ci, Doomsday s'attaque à Superboy. L'épisode commence par Red Robin et Superboy qui discutent un petit peu tous les deux, qui rattrapent un petit peu de temps perdu, qui essayent de se tenir au courant des choses.
Oui, puisqu'on l'avait vu récemment avec Flash, enfin avec Bart plutôt.
Oui, avec Bart Allen, ouais, qui quitte Flash pour la course. Et puis bon, Superboy, après avoir discuté avec Red Robin, retourne vers Smallville. Il envisage un petit peu peut-être de partir dans une autre ville, de trouver sa propre identité, et peut-être s'installer à Détroit.
Mais attends, j'ai une question quand même. Ils le savent pas tous à force que Doomsday est de retour et qu'il commence à massacrer tout le monde ?
Bah apparemment non. À croire que peut-être les choses se passent en même temps. Mais j'y viendrai sur la fin peut-être.
D'accord.
Je lâcherai quelques infos sans spoiler non plus. Doomsday arrive et là s'engage la grosse baston entre donc Connor et Doomsday. C'est assez sanglant. Connor en prend plein la gueule. Il finit dans un très très sale état et bien sûr.
On ne sait pas d'ailleurs s'il va s'en sortir, quoi, un petit peu.
Voilà,
c'est un petit peu le principe de ce Reign of Doomsday, quoi.
Comme à chaque fois, maintenant c'est pas un spoil, ça se passe comme ça à chaque fois. Doomsday réussit à capturer la personne qu'il était en train de combattre et s'en va avec. Enfin, capturer mort ou vif, on ne sait pas trop. On imagine que c'est vif puisqu'il y aura un Superboy 7 qui se passera après Reign of Doomsday. Alors quelles seront les conséquences, on ne sait pas, mais en tout cas on imagine que Superboy n'est pas mort. Là, je pense que c'est pas un spoil.
Non, je pense pas non plus.
Autre chose, Simon.
Simon.
Donc le sidekick de Superboy.
Ah oui, c'est vrai, le fameux Simon.
Ouais, mais je le prononce à l'anglaise, mais Simon peut-être.
Non, t'as raison, Simon, ouais.
Et invité par le docteur Palmer, Ray Palmer, Atom. Mm-hmm. Ouais, donc, Jeff Lemire garde le personnage. Oui. Tu fais pire que moi, là.
Oui, totalement.
On y va dans la vanne, hein, c'est pour eux. Donc il garde le personnage de Ray Palmer sous le coude quand même, il s'en resserre dans Superboy. Personnage qu'il avait bien aimé puisque c'est lui qui avait écrit les backups et le spécial sur Atom.
Oui,
j'avais parlé. Tu t'en rappelles?
Bien sûr, non, tout à fait.
Je te sens perdu.
Si,
c'est peut-être la fatigue
bien.
Là. C'est peut-être
bien,
la fatigue qui commence à. La fatigue de la nuit blanche. Donc il propose à Simon en fait une place dans une nouvelle section universitaire qu'il va ouvrir. Une section spéciale sur les sciences méta, en fait. Tout ce qui touche aux super-héros, aux super-sciences, etc.
D'accord.
Et
okay.
Il y a tout un dialogue entre eux, et Simon hésite encore, puisque il a plutôt envie de faire cavalier seul, mais en même temps, il aimerait bien arriver à se concentrer sur un seul projet, et justement, Ray Palmer lui dit, ce serait l'occasion peut-être d'avoir quelqu'un qui te focaliserait sur un projet, d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui dit, faut que tu étudies ça, faut que tu te mettes sur ça, ou choses comme ça. Quoi. Donc
faut
Simon va y
réfléchir. Sur Skype, faut qu'on aille discuter.
Voilà, donc content moi pour moi en tout cas de revoir Ray Palmer sous la plume de Jeff Lemire.
D'accord.
Parce qu'il tenait bien le personnage. Oui. On finit avec une fin très intrigante. Très très intrigante, puisqu'à la fin du Superman Batman Annual, il y avait donc Saint Walker, le Blue Lantern, et Starman, le Starman bleu, hein, celui qui fait partie de la Justice League actuellement, qui essayait de rechercher où avait disparu Doomsday après avoir emporté Supergirl et Cyborg Superman, et il n'arrivait pas à le retrouver. Et donc il se demandait comment ça se fait qu'il n'arrivait pas à le retrouver. Et là, on a la réponse de pourquoi il n'arrive pas à le retrouver, et ça laisse encore plus de questions sur qu'est-ce qui se passe avec Doomsday. Finalement, est-il tout seul? Y a-t-il plusieurs Doomsday? Pourquoi? Donc, on aura la réponse à suivre dans le Action Comics 900. On verra où ça mène.
D'accord.
En tout cas, c'est intriguant. C'est pas très bon, mais c'est intriguant. À savoir quand même que Doomsday a aussi copié les pouvoirs de Superboy. Donc, il arrive à copier les pouvoirs, là, notamment la télékinésie tactile.
Ah oui, d'accord.
Donc, comment Doomsday arrive à copier les pouvoirs de Cyborg Superman, de d'Eradicator, de Steel, de Superboy, enfin voilà, pourquoi il arrive à copier leurs pouvoirs.
Oui, il a eu des pouvoirs accrus, du coup, updatés, oui. Quoi, visiblement.
Complètement, complètement. Donc on verra bien où ça nous mène. La fin, comme je dis, est assez intrigante. Bah, il faudra aller voir Action Comics 900, qui, je pense, se trouvera de toute façon en double review. On va pas pouvoir rater un événement comme ça.
Tout à fait.
Voilà, donc, ben, disons, c'est un épisode qui est vraiment sympa, mais... Si vous êtes un peu short en finance, je pense que c'est un épisode que vous pouvez zapper.
J'aime bien comment c'est dit. D'accord.
Ben oui, c'est un épisode qui, je pense, s'il y a des conséquences, elles seront expliquées dans le prochain épisode, puisque il faudra lire Action Comics pour avoir la fin de cette histoire avec Doomsday, donc je pense que Jeff Lemire fera un bref récap de ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous voulez zapper un épisode de Superboy, si vous n'êtes pas complétiste, et que vous avez des petits problèmes de fric parce qu'il y a beaucoup de choses, ou que vous n'avez pas forcément envie de dépenser, etc., bah, celui-ci, vous pouvez le zapper, c'est qu'un check-it.
D'accord.
Mais l'épisode est bon. Hein. Voilà. Donc, bah, c'est tout. C'est tout. Une semaine relativement sympa.
Et c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, tout à fait, non, exactement.
Sympathique semaine. On va finir, avant de passer avec le mot de la fin de Benny, on a reçu un petit mail de Glandouf. On avait dit qu'on rigolerait pas.
Oui, non, c'est...
qui nous dit salut à toute l'équipe et félicitations pour votre podcast, pour vos podcasts toujours plus nombreux et riches en informations pour le néophyte que je suis. Et oui, je ne suis qu'un petit nouveau dans le grand monde des comics puisque ça va faire 2 ans que je m'y suis mis sérieusement. J'avais déjà lu du Alan Moore et du Hellboy avant, mais je n'avais pas poussé plus loin.
Non mais
aujourd'hui, oui. Vas-y, fini.
Non, mais j'allais dire nous aussi, hein, de toute façon, on en lit au fait depuis qu'on a commencé à enregistrer.
C'est... Oui.
Bon, avant on connaissait absolument rien.
Avant on connaissait pas. Avant on lisait Titeuf.
Ben oui, on lisait Titeuf et Okapi aussi.
Aujourd'hui je suis à fond dedans et c'est un peu grâce à cause de vous. En fait, je me posais une question. Quand je me suis mis aux comics il y a une paire d'années, les sites internet français qui leur étaient consacrés se comptaient sur les doigts de la main. Et je constate que depuis quelques mois, les sites et blogs français parlant de comics poussent sur la toile comme des champignons. Certains se mettant même à marcher sur vos plates-bandes en proposant des émissions audio et vidéo, les salauds. Ah, c'est pas nous qui l'avons dit, hein. C'est dans le mail. Donc, ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il y a réellement une explosion du nombre de lecteurs de comics en France ? Encore le succès de certaines publications comme Walking Dead ou Batman Universe, ou bien est-ce seulement la communauté comics en place qui éprouve soudain le besoin de s'exprimer de manière plus intense qu'auparavant? Web communautaire, tout ça. En tout cas, je suis très content de cette profusion, la concurrence a toujours du bon, et pour moi qui ai pas mal de retard à rattraper, tous ces sites constituent des sources d'infos quasi intarissables. Et pour finir, je dirais que vos podcasts, c'est comme le Pec Citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore, comprenne qui pourra. Donc ça, c'est une petite référence pour toi, Benny, et tes mots de la fin.
Tout pourri. Donc, ouais, pour faire un...
qui font référence à des choses anciennes, voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu toute une série sur des vieilles pubs. Ouais. Bah alors bon, je pense que comme il dit, hein, c'est plutôt à mon sens le fait que bah voilà, il y a une espèce d'expansion des réseaux sociaux, etc. sur Internet, c'est un peu la mode. Donc forcément, il y a de plus en plus de sites comics, de création de sites. Généralement qui rassemble pas mal de fans d'ailleurs, hein. Voilà.
Bon, je pense aussi qu'il est aujourd'hui plus facile de faire un site internet qu'il y a de ça, ne serait-ce que 4-5 ans. Mm-hmm. On a des outils aujourd'hui très très bien, des bases de blogs qui sont parfaitement exploitables, quasiment pour des gens qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en programmation. Ils peuvent facilement faire un blog, je veux dire, l'avènement des Skyblogs, et encore, je crois que c'est un peu passé de mode, et c'est pas plus mal, mais et toutes les autres outils comme ça. Et puis après, on a des kits du type WordPress, par exemple,
qui sont
relativement faciles à appréhender. Et donc, c'est plus facile pour les gens de pouvoir faire un site où ils vont partager leur passion.
Il y en a d'ailleurs qui tiennent des sites comics à partir d'un blog, quoi, en fait.
Bien sûr. Et faut dire qu'en plus, là, bon, là je vais rentrer un peu dans le débat pseudo-sociologique, hein, je suis pas non plus un expert, donc voilà. Mais c'est vrai que l'avènement des sites communautaires fait que les gens ont de plus en plus envie de s'exposer. On expose sa vie sur Facebook, on met tout quoi. Aujourd'hui, on met même les échographies sur Facebook. Ah, je suis enceinte, regardez, vous la prenez parce que vous voyez l'échographie du bébé. Et les
On met le
gens ont de
placenta
plus.
aussi quand c'est
Ouais.
concerné.
En odorama.
Par exemple.
Oh,
J'espère que personne nous écoute en
Dieu.
mangeant.
Tant pis, désolé.
Bah là, le mal est
Mais
fait, hein,
donc,
c'est sur la moquette maintenant.
c'est trop tard.
Prenez une
Du
photo
coup,
aussi, mettez-le sur Facebook.
pouvoir y arriver. C'est vrai que cette explosion des sites communautaires fait que les gens ont de plus en plus envie et l'habitude surtout de s'exposer et de raconter leur vie et de raconter pas mal de choses. Et du coup, les gens ont plus envie de parler de leur passion. Et donc, vu que les sites sont plus faciles à faire aujourd'hui, ben pourquoi pas se lancer, quoi. Chacun peut se dire, oh, je vais faire un blog. Voilà. Bon, après, il y a ceux qui tiennent et ceux qui tiennent pas. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a déjà plus de fans qu'avant, ça, c'est sûr. En France, en tout cas.
Ah, je sais pas s'il y en a
J'ai
vraiment plus, au fait. Je pense qu'ils s'expriment plus maintenant, comme tu dis, avec cette facilité accrue, quoi, depuis quelques années, de pouvoir faire son propre blog, etc. Mais je pense que les fans étaient déjà là il y a un petit moment. Je sais pas s'il y en a vraiment plus.
Moi,
Malheureusement, niveau comics...
pense qu'il y en a plus, quoi. Je pense qu'il y en a plus. C'est des gens qui lisent des trucs sans forcément savoir que ce sont des comics.
Ouais. Enfin, tu regardes par exemple les gens qu'on connaît, il y en a plus quand même qui ont commencé il y a longtemps
Bien
que des
sûr.
lecteurs récents quand même.
Bien sûr. Mais regarde, il y a des gens qui lisent depuis pas si longtemps que ça. Regarde, par exemple, Glandouf, ça fait 2 ans qu'il s'y est mis. Ça fait pas si longtemps que ça.
Oui, Fuchs, par exemple. Fuchs,
Fiuch aussi, oui.
ça fait un peu plus longtemps, peut-être, que
Ça
Glandouf,
va
mais...
faire 3-4 ans, peut-être. Oh, je sais plus,
Ouais.
non.
Ouais,
Peut-être un peu
c'était
plus, oh, je ne sais plus.
avec je crois, si, c'était avec Spider-Man 3, donc 2007, quoi.
On a Nono, par exemple, qui s'y est mis après avoir vu les X-Men, donc...
Après avoir fait tomber son chapeau...
ça vient de ça, le chapeau. Donc voilà, enfin, moi, je pense qu'il y a un renouvellement un petit peu en tout cas, du pool de lecteurs comics en France, le fait que tout le monde a envie d'en parler, puisque, bah, comme c'est plus facile d'en parler et qu'on n'est pas forcément d'accord avec la critique qu'a fait... un auteur sur un blog que l'on suit, etc., se dire, ah bah voilà, moi je suis pas d'accord, et bah tiens, si je le faisais, quoi. Et c'est comme ça que ça commence généralement.
Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était surtout les forums comics, qui marchaient extrêmement bien. Et puis maintenant, comme les gens peuvent faire plus facilement leur propre site, ils se disent, bah voilà, au lieu de poster sur un forum, je vais faire mon propre site et comme ça, les gens viendront s'exprimer chez moi, quoi, en fait.
En tout cas, c'est bien, quoi. C'est bien parce que la communauté bouge.
Ouais, la communauté bouge et bah, ça aboutit à des projets. Hein, je vais faire l'auto-promo, des projets comme Media Comics. Voilà. Donc venez nombreux sur Media Comics.
Séquence auto-promo.
Non, mais enfin c'est pas vraiment auto-promo puisque finalement la finalité c'est qu'on se retrouve tous
Oui.
en un seul et même endroit pour discuter quoi. Enfin ça c'est même
C'est
pas
clair.
le but c'est même pas d'absorber les sites etc. quoi. C'est vraiment de
Ah non, du
discuter entre
tout,
nous.
du tout, du tout. Jamais. C'est pas du tout le but de départ.
Non, enfin si c'est le but nous deux au fait notre but non avoué comme Fatalis. Hein, on essaye de
Conquérir le monde.
mais bien sûr.
Le
Comme
monde des
Yves et
comics.
Cortex. Qui fera
Monde
Minus, qui fera Cortex?
des... Ouais, putain, merde. Bah, t'es le plus grand.
Les Laurel et Hardy du podcast Comics.
Et puis, bon, c'est vrai qu'on a de plus en plus de podcasts, et c'est pas mal aussi, quoi. C'est bien, parce que comme ça, il y en a pour tous les goûts.
Tout à fait. Non mais ils sont tous différents en plus. Aussi bien les vidéos casques que les podcasts d'ailleurs.
Et donc c'est très bien tout ça, et ça fait plaisir de voir que ça bouge.
Voilà. Et sur ces
Bah,
bonnes
écoute.
paroles, le
J'espère
mot
qu'on a bien
à
répondu à ta
la
question,
fin. Oui,
Guillaume.
pardon, oui.
Quand même. Et puis bah merci de ton mail. Et puis
Et puis
bah,
techniquement,
j'ai envie de dire à nous de faire de l'autopromo aussi, enfin à mon tour de faire un peu d'autopromo. Continue de nous suivre assidûment. On va faire vite fait le petit tour, comme d'habitude. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Bah, vous nous laissez des commentaires sur le site, vous nous envoyez des mails, comme l'a fait Glandouf. Et puis voilà, et puis le mot de la fin.
oui, alors le mot de la fin, donc comme la semaine dernière, Guillaume s'est bien marré à la lecture des mots de recherche, des termes de recherche, et ben j'en ai encore cherché d'autres. Et il y a eu encore de sacrés trucs. Alors ça pourrait faire l'objet de débats, de futurs débats sur Comic City. Donc
D'accord.
je vais te les lire
Je
avec le
prends
plus
note,
grand
je
des
prends
sérieux.
note.
Alors prends note.
Je prends mon crayon.
Voilà. Prends ton crayon,
Vas-y,
donc
c'est bon.
je vais te les lire. Héros avantagé par la noblesse famille, Non, par la noble famille d'ailleurs.
D'accord, très bien, très très bon thème.
Coup spécial Deadpool.
Ah non, ça non.
Qu'est-ce qu'un leurre de Black Ops?
Ah,
Chantal Goya, épisode 2, première partie à Metz.
Alors, je c'est le thème du prochain Comic City Chronicles, on peut le dire maintenant.
Oui, voilà, exactement. Superman Peace.
Je comprends pas comment on a pu tomber chez nous avec Chantal Goya.
Oui, je sais pas.
Je ne comprends pas.
Donc Superman enfin, Peace, mais Peace PI2SE. Insecte Panini.
Insecte.
Insecte.
Ouais. Oui, donc ça c'est Exterminators, ouais, ok.
Panina et Panino le 5 novembre. J'y serai. Vertigo. Ah Vertigo Panini, je pense. Moi aussi, je pense. Les grosses fesses des stars. Honey Bunny traduction. Donc ça c'est pour ceux qui pensent encore que c'est moi qui fais les sous-titres sur certaines séries télé que les gens s'approprient à dos de mule ou de manière fortement illégale.
Oui, ou dans des cours d'eau. Hein.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Des, et, bah, tout à fait, des torrents qui vont à toute vitesse et, et que les fournisseurs d'accès internet nous fournissent d'ailleurs. Très très vite.
Le torrent de l'information, quoi.
Voilà, exactement. Et le meilleur pour la fin, la meilleure recherche réalisée à ce jour, Comic City, vive Honey Bunny. Je suis sûr que c'est vrai, tu pourras aller vérifier.
Ah, je comprends pourquoi tu trouves que c'est la meilleure.
Voilà, voilà, Comic City, vive Honey Bunny. Donc, je pense que là, c'est tout est dit.
Bon, alors moi je trouve qu'il y en a beaucoup pour Honey Bunny, et moi je pue de la gueule, donc.
Mais quelquefois il y en a. Alors il y a eu il y a quelques temps un Steve Nior Spider-Man, je m'en rappelle. Non, il y en avait eu quelques-uns sur toi, mais voilà, il y a des trucs qu'on pouvait pas dire aussi à l'antenne. Bon, enfin bref.
Bon, bah, si j'ai un jour j'ai un fan club, faites-moi signe.
Ouais, allez, faites-lui le fan club de, je sais pas moi, les fans de comics à la longue barbe.
Donc c'est pas un fan club du FF, c'est bon.
Ouf, ouais, bah tiens, oui, bah tiens, ce serait une bonne idée. Tiens, faudrait faire un groupe là-dessus sur Media Comics.
Bien sûr, nous parlons du FF, du Comic City Chronicle 0. Hein.
Tout à fait.
Voilà, le fameux FF. Et non pas les FF. Ça, c'est pas les mêmes. Bref, on va peut-être laisser les gens.
Ouais, on vous laisse les gens. Allez.
Peut-être y aller. Toi, tu vas aller dormir, je pense.
Non, je vais tenir jusqu'à ce soir. Comme un Warsi.
Tu pètes le feu, bon. Bien. Donc bah, c'est la saison de la reproduction des lapins et Bunny est en forme.
C'est vrai, oui.
Et donc bah, on le retrouve la semaine prochaine,
et
il n'aura toujours pas d'armes.
Non, c'est pas la semaine prochaine.
C'est pas dimanche là, c'est le dimanche d'après. Si, c'est la semaine prochaine.
Ah oui, bah alors peut-être que d'ici là, du coup, joyeuse Pâques, parce que je ne sais pas si on se retrouvera avant.
Mais nous oui, mais pour l'enregistrement, mais après pour la diffusion, ce sera peut-être le dimanche de Pâques, justement. Ou le lundi de Pâques, quoi qu'il arrive.
Joyeuse Pâques par avance. Hein.
D'accord. J'aime beaucoup les gens qui souhaitent joyeux Pâques, ça me fait toujours rire. Puis bah chercher bien les œufs.
Voilà.
Bref, on y va.
Hein, 1, 2, 3.
On va y aller. Et bah donc à la semaine prochaine.
Ciao.